Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un livre qui s'appelle « Désir de France », publié aux éditions Michalon. Je crois qu'on peut donner de même le prix, 17 €. Et dans ce livre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous retrouvons 15 correspondants de la presse internationale qui nous regardent et interrogent notre avenir. Alors, évidemment, je ne vais pas parler de l'ensemble du livre, parce que sinon, vous n'aurez même plus besoin de le lire, mais plutôt choisir un des chapitres, une des parties, je veux dire, qui s'intitule « La France entre Nouvelle Europe et Monde Nouveau ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que le regard des autres est toujours important. Nous ne regardons jamais assez les autres, nous nous interrogeons jamais assez sur l'évolution du monde. Et ce qui a fait notre pays grand, c'est évidemment une connaissance du monde exceptionnelle pendant très longtemps. Évidemment, aujourd'hui, le monde avec l'univers de la communication se multiplie, s'installe dans notre salon. Mais est-ce que nous connaissons mieux le monde aujourd'hui qu'avant ? Certes, oui, dans bien des domaines, mais parfois de façon assez superficielle, il faut bien le reconnaître. Alors, dans cette partie sur la France entre Nouvelle Europe et Monde Nouveau, vu par un certain nombre de correspondants, eh bien, par exemple, la Pologne. Alors, j'ai retenu certains éléments, et justement, avec la Pologne, nation, il faut le rappeler, avec laquelle nous n'avons jamais combattu, eh bien, on est à la fois très différents, on ne se comprend pas, on ne se connaît pas suffisamment, la guerre étant passée par là, c'est vrai, et puis nous ne voyons pas les choses pareilles. Par exemple, la France, c'est ce que nous rappelle le correspondant polonais, la France, eh bien, se méfie un peu à l'occasion de l'Amérique, alors que pour la Pologne, au contraire, l'Amérique, c'est le pays qui délivre, on l'a vu après la chute du mur de Berlin, etc., etc. Alors, il est important de savoir un petit peu ce que pensent les Polonais, comme ce que pensent d'autres peuples de la planète, etc. Pour le rayonnement de la France, c'est aussi important. Qu'est-ce qu'ils pensent de la France ? Eh bien, je crois que, notamment, le nouveau président français, c'est ce que j'ai lu, M. Sarkozy, eh bien, a intéressé la Pologne parce qu'il a considéré que la Pologne était un des 6 grands pays de l'Europe, ce qui d'ailleurs est tout à fait juste. Donc là, il y a une reconnaissance, alors qu'on se souvient de propos du président Chirac, qui au contraire, parlant des pays de l'Est, avait dit ben, « ils ont tout intérêt à se taire ». Donc je crois qu'au contraire, dans le dialogue, il faut parler. Donc c'est tout à fait important. Alors évidemment, il y a tout de même certains points importants à signaler, c'est que la francophilie en Pologne n'a pas tellement augmenté ces dernières années. À peine 3%, je crois, des étudiants apprennent le français. Donc, c'est quand même très peu. Et pourtant, avec la Pologne, il y a quand même, souvenons-nous, de l'élan de solidarité pour, évidemment, le syndicat polonais de la part des Français. Ça a été tout à fait considérable. Souvenons-nous des groupes d'influence qui existent. Mais c'est important, nous ne sommes peut-être pas encore assez ouverts du côté de la Pologne. Il faudrait vraiment refonder, et c'est un peu ce que nous signifie ce correspondant polonais en France, il faut un peu refonder nos relations. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Nous nous ignorons trop et nous passons à côté d'une belle aventure qui, je crois, il faut absolument revoir cela. Avec le Japon, eh bien, avec le Japon, les Japonais sont très intrigués par notre pays. Donc, on sait une certaine fascination pour la France, etc. Ce correspondant a remarqué que dans ce livre donc publié aux éditions Michalon, « Désir de France », ils ont remarqué que la France possède énormément de diplômés universitaires, beaucoup plus que l'Allemagne. 37% en France, 22% en Allemagne, 12% en Italie. Mais par contre, ils remarquent avec un peu d'étonnement que le chômage est très élevé et donc tourne autour des 9% et parfois chez les jeunes beaucoup plus, autour de 23%, ce qui en effet est considérable. Donc ils sont inquiets. Vous voyez, à la fois en France, c'est un pays d'élite, et justement, Il donne un petit coup de patte, ce correspondant japonais, sur la formation des élites, sur le fait qu'en France, eh bien, il y a les privilégiés, ceux qui passent par l'ENA et par Polytechnique. Quant aux autres, eh bien, si vous voulez, on les laisse un peu tomber, etc. Donc, il s'étonne aussi de voir la puissance du président français. Donc, il y a cette puissance présidentielle qui est tout à fait monarchique. Et donc, cette fascination du japonais est comme un miroir, d'ailleurs, qui revient vers lui, où, on le sait, la monarchie est très puissante aussi au Japon, etc. Donc, tout en s'étonnant de certaines particularités françaises, le Japon, si vous voulez, est renvoyé un petit peu à lui-même, etc. Mais c'est tout à fait passionnant et on sent que, pour les Japonais, la France est un pays clé de cette Europe et c'est ce qui est important. Alors, du côté de la Russie, eh bien, ce que j'ai noté du côté de la Russie, c'est qu'évidemment, le communisme a drôlement ravagé la francophilie. N'empêche qu'il reste encore 4 millions de francophiles dans ce pays. 4 millions, ce n'est pas rien. Quand on sait qu'aux États-Unis, il y en a aussi beaucoup, dans les deux grands pays de l'Est et de l'Ouest, ce n'est pas rien, il va sans dire. Par contre, et c'est là où ce regard du Russe sur la France nous importe, c'est qu'en France même, on apprend très peu le russe. Je pense qu'il n'y a pas plus de 30 000 étudiants français qui apprennent le russe, etc. Et peut-être un certain nombre d'entre eux sont-ils d'origine justement russe par leurs parents, etc., etc. Et nous n'accueillons que 200 000 touristes russes sur 75 millions de touristes, de visiteurs chaque année, etc. Donc, n'oublions pas, avec la Russie, il y a eu une très bonne relation Poutine-Chirac-Schröder, avec l'Allemand Schröder, mais aujourd'hui, où vont ces relations? Et je crois que là, nous pourrions, il faut absolument se poser la question, et là, le nouveau président français, M. Sarkozy, eh bien, ne va-t-il pas être perçu comme trop réaligné du côté des États-Unis? Voilà. Alors, eh bien, j'en arrive justement à cette France, avec la France vue par le correspondant américain du Times. Et là, c'est probablement d'ailleurs un des chapitres les plus stimulants, j'ai trouvé, du livre. Pas le seul, il y a la Chine aussi, dont je ne parlerai pas ici. Donc, les lecteurs pourront directement, qui s'y intéressent, de trouver ce que pensent les Chinois de la France. Mais pour les États-Unis, eh bien, le titre d'ailleurs est intéressant, car on dit « La France et les États-Unis vers la fin des clichés ». Eh bien, je crois que c'est vrai, il y a tellement de clichés entre la France et les États-Unis que pour deux grandes démocraties, pour les deux grands pays occidentaux que nous sommes, c'est un peu affligeant, il faut bien le reconnaître. Alors, ne l'oublions pas, il y a du paradoxe dans nos relations. Par exemple, le loup solitaire américain, comme on le voit, côté un peu cow-boy, concentre son attention sur le reste du monde, tandis que les Français, eux, viscéralement multilatéraux, ne sont obsédés que par la France. Et c'est vrai que certains de des gens qui nous regardent pensent que nous sommes terriblement obsédés par notre propre univers, etc. Ce n'est pas faux. Mais c'est peut-être un peu injuste parce qu'il y a énormément de pays qui nous intéressent, de cultures qui nous intéressent, etc. Mais pour revenir à ce correspondant américain qui pose de très bonnes questions, je dois dire, il se demande quelle est aujourd'hui la politique étrangère de la France. Parce que lorsque les États-Unis ont commis cette très grosse erreur, reconnue d'ailleurs maintenant sur l'Irak, eh bien, la France a-t-elle vraiment proposé quelque chose de très différent, de solide, bien à part le fait de s'opposer à la guerre en Irak, mais a-t-elle proposé quelque chose de vraiment très fort qui pouvait faire oublier en partie les erreurs de la politique américaine, etc. Alors, ce correspondant note la chose que je trouve très intéressante, c'est qu'une grande partie de l'élite parisienne, car il y a une élite parisienne tout à fait indépendante, est un peu stupéfiée par le manque de carrure en politique étrangère, peut-être des candidats, je n'ose pas dire du président actuel, mais des candidats Sarkozy et à l'époque Royal, il va sans dire. Donc, il s'interroge, est-ce que vraiment la rupture va-t-elle être suffisante, etc., etc. Alors, lui aussi, après le japonais, il rappelle quand même que entre la classe politique, donc souvent formée par les énarques, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du président Sarkozy, et par les gens de Polytechnique ou d'ailleurs, bien entendu, il y a un très grand écart entre la classe politique et la population. Et c'est vrai que si on observe, si on est un bon observateur, il y a de très grosses différences entre la politique et la population, etc. La population attend davantage d'une classe politique qui semble vivre véritablement en autarcie. Alors, ce sont, vous voyez, ces correspondants nous interpellent et ce désir de France est réel, mais n'empêche que si ce désir de France est réel, il y a tout de même des interrogations. En fait, ce qu'on nous reproche un petit peu entre les lignes, ou parfois même directement, c'est de ne pas prendre la place que nous devrions suffisamment occuper. Et nous ne prenons pas la place que nous devrions occuper parce que nous ne nous intéressons peut-être pas encore suffisamment assez aux autres. C'est vrai que la Pologne, c'est important. Et que connaissons-nous aujourd'hui de la Pologne, etc. La France est vraiment secouée par une classe émergente de minorités exclues, pas toujours, mais souvent, doit trouver un moyen de mettre un frein à la discrimination et propulser de manière visible un plus grand nombre de membres de ces minorités dans des positions de pouvoir et d'influence. L'Amérique peut offrir certains exemples de réussite. Alors c'est assez intéressant parce que jusque dans les années 50-60, en Amérique, être quelqu'un de couleur, c'était souvent terrible à vivre. Et il y avait même des assassinats, on s'en souvient, des pendaisons, etc. Alors qu'en France, on a le souvenir de Joséphine Baker, d'une certaine harmonie. Et au fond, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a davantage, peut-être aussi y a-t-il davantage de populations de couleur aux États-Unis, mais il y a davantage de responsables de couleur aux États-Unis, ce sont des Américains, bien sûr, qu'en France même, dans certains domaines. Encore que c'est en train de changer, et bien, on le voit notamment dans le cas du ministre de la Justice, Rachida Dati, donc ministre de Nicolas Sarkozy. Donc, il y a là, vous voyez, des choses vraiment intéressantes, et comme quoi, si les Américains ont heureusement appris de nous ces dernières années, nous avons encore à apprendre d'eux dans les années qui viennent. Ils ont bien sûr du dynamisme et du réalisme, il va sans dire. Alors, je conclurai ou terminerai cette présentation de ce livre qui s'appelle « Désir de France » chez Michalon. Très bon livre, 15 correspondants de la presse internationale nous regardent et interrogent notre avenir. Je ne peux pas parler de tout, j'oublie pour l'instant, mais c'est intéressant, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, l'Angleterre et tant d'autres. Mais n'oublions pas aussi, du côté des Arabes, eh bien, évidemment, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, les correspondants arabes à Paris se demandent quelle va être sa politique arabe, qui évidemment risque de changer par rapport à celle de Gaulle. Encore que n'oublions pas, de Gaulle, cette politique a été suivie par celle de Pompidou, et Mitran pouvait craindre que Mitran, lui, n'effaçât, si vous voulez, une certaine politique gaulliste. Il l'a effacé en partie, mais en partie seulement, car, ne l'oublions pas, sa politique n'était pas du tout anti-arabe, et bien au contraire, il a sauvé deux fois le chef de l'OLP de la mort, en 1981 et en 1983. Donc ce n'est pas rien. Alors Chirac était un grand ami, on l'appelait même le docteur Chirac, grand ami dont on sait de tous les pays arabes, et alors est-ce que M. Sarkozy est-il trop américanophile? C'est une bonne question. Ben, nous allons le voir dans les mois qui viendront. Et bien entendu, en tout cas, les Arabes comptent sur nous pour que notre politique reste une politique juste et tournée vers un monde évidemment très complexe. Car le gros problème, il faut le dire, je prends ça sur moi, c'est la division évidemment du monde arabe. Alors, je terminerai cette présentation de Désir de France, vous voyez, qui est très riche et je ne fais qu'effleurer évidemment certains thèmes, etc., qui en dit long sur nous et sur les autres. Et il faut surtout s'intéresser aux autres si nous voulons progresser. L'Afrique. Eh bien, le titre de l'Afrique, du correspondant de l'Afrique, s'appelle « L'Afrique, on s'y perd moralement ». Eh bien, oui, c'est vrai que beaucoup d'Africains pensent que la France se désintéresse de l'Afrique. Et pourtant, c'est un peu injuste, pense-t-il, je crois avec raison. On oublie trop qu'une vingtaine d'États sur 52 ont connu des processus d'alternance méritoire, comparé à certains États ex-soviétiques du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud-Est. Donc le niveau de démocratie exigé des Africains apparaît souvent comme un prétexte de plus pour l'exclusion. Eh bien voilà, je crois que j'ai présenté ce livre, Désir de France. Nous pouvons télécharger gracieusement cette émission dans notre très belle médiathèque. Je vous remercie.